ordinary. This that 14 karat cake. Ooh, tell me what you gon' do.
Écoutez les grosses têtes
sur Bell RTL.
Une question pour Francine Lambert. Question de vocabulaire. Mme Lambert habite Abbeville. J'ai des vraies grosses têtes aujourd'hui et j'imagine que vous saurez tous me dire ce qui est à la fois décisif et en forme de croix.
Décisif,
Il y a un jeu de mots.
Merci pour cet essai, madame.
Est-ce que c'est lié, par exemple, au sport, par exemple, au football, quand quelqu'un est décisif? Et c'est, je suis sûr que c'est un lien au sport avec le football,
pas
par exemple.
Du tout.
C'est crucial.
Est-ce que c'est quoi, quelqu'un crucial?
Crucial. C'est une excellente réponse. De Marcella Yacoub.
Ah oui.
Bravo Marcella.
Oui, un moment crucial, décisif, c'est un carrefour dans nos vies, ouais.
Et crucial, ça veut dire en forme de croix.
Mais oui,
aussi.
Mais oui.
Ça, on l'ignore parfois parce qu'on utilise le mot crucial effectivement pour quelque chose de décisif, quelque chose qui permet de conclure un moment crucial. Mais le premier sens du mot crucial, c'est bien en forme de croix.
Mais oui, on dit crucifixion.
Oui, bah c'est trop tard vous maintenant. Mais en tout cas, ça prouve que Marcella Yacoub est une vraie grosse tête et qu'elle est cruciale.
Oui,
pour cette émission. Alors tiens, voilà, j'en ai une plutôt pour vous, Dari Boudboul, à l'attention de Cyril Roudeau, qui habite Saint-Georges-sur-Léon, dans le Maine-et-Loire. Comment appelle-t-on la petite planche à repasser? Comment appelle-t-on...
je sais, parce qu'une Jeannette.
Eh ben bravo, c'est une Jeannette.
Vous voyez? Évidemment, une bonne ménagère, hein,
oui,
que je suis.
Oui.
Bonne petite mémère. Alors avant, je disais moins de 50 ans, maintenant c'est moins de 70. Mais voilà, elle sait ce que c'est qu'une Jeannette.
Mais alors moi, je vois pas bien ce que c'est la Jeannette par rapport aux autres planches.
Mais c'est bien, c'est de minimatique.
Moi, je vais vous dire, elle permet de rentrer la manche de la chemise dans la Jeannette.
Ouais. C'est pour
et une
éviter...
fois qu'elle est rentrée, on fait un côté et après on fait l'autre côté.
Et c'est pour éviter le pli.
Exactement.
La manche.
Ah oui.
Parce que c'est mal vu de me faire un pli sur la manche du lâche.
Mal vu par qui?
Parce qu'il y a des modes.
En tout cas, c'est bien une Jeannette. Bravo. Je vois que vous êtes froissé, monsieur.
Ah, mais vous m'avez empêché de me dire pour que ça soit.
Parce que je vous laissais la bonne réponse.
Ouais, voilà.
Vous pouvez de temps en temps quand même laisser une réponse à quelqu'un, surtout sur une Jeannette. C'est pas un exploit de répondre Jeannette, vous voyez.
Non, mais.
Comment ça, c'est pas un exploit?
Vous venez de briller avec Gilbert Cesbron. Vous pouvez laisser la Jeannette à Dari Boudboul.
Bah, quand vous avez dit stop, je l'ai laissé, du coup.
Encore une question de vocabulaire. Et après, on passera à autre chose. Mais c'est pour Julien Vessière, qui habite Saint-Nectaire, dans le Puy-de-Dôme.
Putain, c'est le fromage.
Qu'est-ce qu'il y a?
Non, rien, Saint-Nectaire, c'est le fromage.
Alors écoutez, vos petites remarques, Mme Bédia.
Pardonnez-moi.
Donc, vous êtes comme âge, vous aimez le fromage.
Oui, voilà. J'adore.
Ah, c'est fou ça.
Je suis très intégré.
Cette génération. Mais c'est vrai, j'ai remarqué, une génération comme vous qui aime le fromage.
Pourquoi? Oui, enfin, c'est juste les gros. Hein, franchement. Je pense que c'est une génération.
En tout cas, je vais vous demander maintenant ce qui peut être à la fois un carrefour et au coin de l'œil.
Une poussière.
Une poussière.
Il y a des poussières dans les carrefours. Ah, oui,
et une poussière, c'est un carrefour.
Non, une alarme. L'alarme à l'œil.
L'alarme à l'œil, c'est joli, mais c'est pas un carrefour.
Ouais. Un Loriot.
Un Loriot, pas du tout.
Un gilet jaune.
Un gilet jaune, non. Qu'est-ce qui est à la fois un carrefour et au coin de l'œil?
En fait, je comprends le principe. Depuis plusieurs émissions, il faut absolument faire des mots croisés ici.
Ah oui. Si vous pouviez en faire et vous taire en même temps.
Parce que ça fait très définition de mots croisés.
Ben oui, mais là, effectivement, c'est une subtilité, c'est un peu comme crucial.
Oui, mais moi, je fais du sudoku, je peux pas tout faire.
Mais on l'utilise davantage pour le coin de l'œil ou pour le carrefour?
Alors, on voit ça au coin de l'œil et on voit ça au carrefour aussi. C'est d'ailleurs une forme de carrefour, mais un carrefour bien spécifique. Et on peut voir ça aussi au coin de l'œil.
La cataracte?
La cataracte, non.
Est-ce que c'est une forme géométrique?
Vous, par exemple, vous n'en avez pas. pas monsieur. Non. Monsieur Bigard commence à en avoir, vous voyez.
Des cernes.
Mais non.
Qu'est-ce qu'il a, Jean-Marie, regarde-nous. Qu'est-ce que t'as, Jean-Marie?
Qu'est-ce que je commence à avoir?
Des poches.
J'ai de moins en moins le bite dur, ça c'est sûr.
Non, monsieur
Bigard. Je vois ce que j'ai en moins, mais.
Mais même moi, évidemment, et vous aussi, au coin de l'œil.
Des rides du lion?
Des rides? Des rides?
Des rides du lion?
Des rides du lion?
Non, mais on se rapproche.
Des rides du. C'est les rides d'un animal?
Les pattes doigts? Les pattes doigts?
Les pattes doigts?
Mais oui! Bonne réponse de Paul Alcarat.
Bravo.
Eh oui.
Ah oui, par exemple, il y a la pâte d'oie d'Herblé.
Ah, vous connaissez?
Ben oui.
Effectivement.
Mais c'est un carrefour, la pâte d'oie?
Oui. C'est un carrefour où une route principale se divise en plusieurs voies divergentes. Ça s'appelle une pâte d'oie.
Ben, ça s'appelle un rond-point.
Oh non, enfin, écoutez.
Non, ça c'est.
Comme des petites rides en éventail qui se trouvent à l'angle externe de l'œil. La pâte d'oie, c'est une vraie réponse de Paul Alcarat qu'on peut applaudir.
Bravo, mon Polo.
Les grosses têtes reviennent dans un instant sur Bell RTL.
La musique dans la peau. Casse un émitier bobo. Faut pas comprendre Bibi, c'est en couillonne. Si toutes les moins en fondant, faut attendre vous en chique et ni mal donne. Nettoyer, balayer, ainsi que casse toujours fait bon. Pas manger, pas en
Vous écoutez les grosses têtes.
Sur Bel RTL.
Une question d'histoire de France pour Charles Navez, qui habite Oisserie, en Seine-et-Marne. Là, c'est une question pour Paul, parce que je sais qu'il aime bien les torturer, les pendus.
Oh, merci. Ouais.
Ben, si, c'est vrai, vous aimez bien les pendus.
Les guillotinés. Ouais.
C'est quelqu'un qui a été pendu.
Ah, super.
Je ne vais pas donner la date, je vais dire il y a combien de temps. Comme ça, déjà, il faut calculer, vous voyez. Il y a 709 ans.
Qu'il est... 709 ans.
Ouais, 709 ans qu'il a été pendu.
Waouh.
À Paris, un 30 avril, quand même. Hein.
Enguerrand de Marigny.
Enguerrand de Marigny. Bonne réponse de Paul Alcarat.
Bravo Polo.
T'as expliqué qui était Enguerrand de Marigny?
Eh ben, c'est le grand chancelier de Philippe le Bel qui a eu des petits soucis de prévarication, c'est-à-dire il a un peu trafiqué les...
Vous appelez ça des petits soucis quand on est pendu?
Non. C'est-à-dire des, il a un peu trafiqué l'argent public et donc il a été condamné à mort et pendu en 1315.
Ah oui,
j'avais le 5 Fillon.
À cette époque-là, on disait pas attention, c'est un présumé innocent, etc.
Non.
Et ben moi j'avais le 5 de 1315 parce que je posais la soustraction en 2000.
Oh bah le temps, ouais.
Ah, vous étiez en train de calculer, vous alors. Effectivement, c'est le 30 avril 1315 qu'Enguerrand de Marigny a été pendu au gibet de Montfaucon, pour être très précis. Et je suis en train d'observer, les téléspectateurs de Paris Première doivent le voir aussi, que le chien de Dari Boudboul est arrivé sur les genoux de Mel Rabédia.
Je veux pas le rendre. Oh. Ou je vais faire comme Rachida Dati, elle a dit, j'ai envie d'en faire un kebab.
Un kebab.
Non mais c'est marrant,
ça,
il est quand même votre chien assez aimable de passer comme ça de
bras. Bah, t'es le chien, t'es le maître. Hein.
De bras en bras. Et...
Elle est adorable, elle est comme sa maman. Contrairement à la chienne de Marcella qui mord tout le monde, la mienne, elle mord personne.
Quelle diffamate. Mais non, tu vois pas qu'elle est sous anxiolytique, la chienne, elle fait que dormir.
Quelle diffamate. T'as le maître, t'as le chien.
Ouais.
C'est vrai, vous lui donnez des médicaments à votre chienne?
Non, mais elle a fait une psychothérapie au début.
Bah voilà.
Non, elle est un exemplaire.
Vous avez conseillé à Dari avant l'émission d'aller, chez, enfin pas elle, mais d'emmener son chien chez un psy.
Oui, parce que les psys viennent à la maison quand on a des problèmes.
Oui, mais elle a pas de problème du tout, moi, ma chienne.
Parce que tu es tellement folle que tu t'en rends pas compte.
Elle aime tous les chiens.
Il y a vraiment des
psys
pour chiens. Il y a des psys.
Ah, mais ouais. Mais moi, je vais faire une formation.
Ah, donc tu vas ausculter les chiens des.
Moi, je vais faire une formation.
Et alors, attends, explique-moi.
Mais ils parlent pas, les chiens.
Bah voilà, ils parlent pas. Comment ils font?
Waf, 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 waf. Comment ils.
Non, mais. Et tu l'emmènes pas, toi, chez ton psy à toi?
Je fais ça en lit depuis quelques semaines.
Quoi? Il a dit quoi?
Il dit qu'il fait waf, waf au lit.
Oh non, mais moi, je pense qu'il va falloir qu'on interne les gens.
C'est simplement qu'il dort en chien de fusil, c'est tout. Hein. Vous avez redormi avec Nathalie, là, depuis la dernière fois?
Évidemment.
Ils vont venir dormir à la maison.
Évidemment. C'est pas vrai.
Oh,
vous faites hôtel de passe, là-dedans?
Non, je fais hôtel pour les amoureux.
C'est pas vrai. Vous allez dormir chez Dari Boudboul?
Oui, et son gîte, sa chambre d'hôte est magnifique. Ça s'appelle le Petit Ébat. Et c'est à côté du château de Chambord.
Ah bah ça remarque,
c'est pas obligé de donner l'adresse, parce que le but, c'est quand même que vous soyez en petit couple d'une façon
différente. Et c'est à Cheverny, c'est génial. C'est au milieu de tous les châteaux de la Loire, ça va être extraordinaire.
Et ça va être rebaptisé le Gros Ébat pour l'occasion?
Et ben, non, mais vous savez que quand, au départ, tout le monde s'est moqué de moi en me disant, c'est restrictif. Au singulier, le Petit Ébat. En fait, pas du tout, parce que au pluriel, on sait ce que ça veut dire. Mais au singulier, c'est l'endroit où on fait s'ébattre les chiens autrefois. Avant
ben
la
voilà,
chasse.
Ben Marcella, vous pouvez venir avec votre psychopathe.
Excusez-moi.
Vous serez la bienvenue. Oui, oui.
Le chien, il a pété pour de vrai.
Comme sa maîtresse. Pour Aurélie Picotin, j'enchaîne. Hein. Madame Picotin habite Noisy-le-Grand. J'ai l'impression de tenir un asile parfois ici.
C'est pas simple.
Pour Madame Picotin, donc, pouvez-vous retrouver le nom de
celle... Picotin, c'est pour moi la question.
Celle qui s'est mariée à 33 ans et qui est morte le jour de son mariage.
C'est un personnage de fiction.
De fiction, non.
Au XXe siècle, au XXe siècle.
Au XXe siècle, oui.
Une actrice, alors peut-être.
N'attendez pas de moi, je vous donne la date. Vous savez bien que Polo est à l'affût. Je le vois là, non. Il est déjà là.
C'est quoi, c'est Eva Perón?
Eva Perón.
Eva Perón, mais rendu.
Bah, elle est morte à 33 ans.
Comment tu oses parler d'Eva Perón?
Je parle si je veux déjà.
Vous touchez pas à l'Argentine, là. Oh là
si,
là, malheureux.
Oh là là. Elle est morte à 33 ans.
Mais
oui, mais elle s'est mariée.
Mais on n'est pas si loin, pas
bah oui,
dire.
C'est quelqu'un d'Amérique latine?
nous.
Ah non, pas du tout.
On n'est pas si loin.
C'est quelqu'un qui s'est fait fusiller ces jours-là. Il avait mandé.
Non, elle ne s'est pas fait fusiller.
Elle est morte comment?
Ah bah elle est morte comment? Je vais pas tout vous raconter.
Elle est morte pas par violemment.
Si elle est morte violemment, je pense.
Est-ce qu'elle est morte juste après le mariage, dans la foulée du mariage?
Ah, dans la foulée du mariage.
Elle a même pas consommé.
Le jour même.
Elle était un peu émotive quand même.
Elle est morte d'une épectase.
Quand vous saurez qui c'est, non, ils n'ont pas.
Elle s'est emmêlée dans sa robe de mariée.
Non. Ils avaient déjà consommé.
Ah, c'est son mari qui l'a tué.
Ah, tous les deux se sont tués.
Ah, mais c'est Roméo. Ah,
est-ce que c'est volontaire, non?
C'était... Ah oui, c'est volontaire. Ah,
est-ce que c'est en 1911?
Ah, pas du tout. Ils se sont mariés et elle est morte le jour
Ah,
même.
Mais je sais qui c'est. Oh, le boulet. C'est Eva Braun et Adolf Hitler.
Bonne réponse. Bonne réponse de Paul Alcarat. Eh oui. On avait oublié, mais ils se sont mariés le 30 avril. On est le 30
45.
Avril aujourd'hui. Et le 30 avril 1945, Eva Braun épousait Adolf Hitler et après ils se suicidaient les deux, évidemment, bien sûr. Mais ça n'empêche pas, évidemment, de poser la question sur elle seulement, parce que ce n'est plus difficile, évidemment, comme ça.
Elle voulait être une star hollywoodienne et elle a été que photographe et amante de Adolf Hitler.
Eva Braun ou Eva Hitler par son mariage, même si elle n'a pas porté son nom très très longtemps, puisqu'effectivement, le suicide a eu lieu le même jour que le mariage.
Et aussi la chienne, il a tué sa chienne, les salauds.
Oui.
Décidément. Le seul chose des biens qu'il avait, il l'a tué aussi, on ne sait pas pourquoi.
Empoisonné.
On a dit parfois qu'il avait quand même peut-être réchappé, que peut-être il était
Chez les
vivant.
Soviétiques, à la Loubianca, où on a le cerveau d'Hitler.
Ou en Argentine.
Non, mais commencez pas.
Il parlait pas de l'Argentine.
Mais en tout cas, effectivement, on l'oublie parfois, ils se sont mariés, c'est quand même fou, Adolf Hitler. Claire et Eva Braun, le 30 avril 45, avant de se suicider.
Oui, bah c'est facile de se marier quand tu sais que tu vas te suicider après. Sinon, il aurait réfléchi. Hein.
Les grosses têtes reviennent dans un instant sur Bel RTL. Vous écoutez les grosses têtes
sur Bell RTL.
Vous savez qu'on a célébré il y a quelques semaines l'anniversaire de naissance de Marcel Pagnol, et Marcel Pagnol était entré à l'Académie française en 1946. C'est une question littéraire que je vous pose, puisque je vous demande à qui Marcel Pagnol avait-il succédé à l'Académie française. Et chaque académicien est obligé de faire un joli discours, un discours de réception à l'Académie, un discours qui fait l'éloge de son prédécesseur.
Donc, il est mort en 46.
Alors, il faut évidemment deviner quelqu'un qui est mort en 45. Non, pour que Monsieur Pagnol puisse succéder au fauteuil de cet académicien, il fallait qu'il soit mort avant. Lui, il est mort en 45, effectivement.
C'est un français,
académicien français, poète et dramaturge.
Le mec qui l'a remplacé est mort dans un camp.
Ah non.
Il était collabo.
Il était Pétain. Ah non.
Un de nos plus grands écrivains.
Alors je dirais pas ça parce que on est peu à le connaître, voyez. Et quand je dis on, je me mets dedans. Hein.
Moi je peux pas le connaître.
C'est un romancier ou un poète?
Un romancier et un poète, mais plus un dramaturge encore que peut-être un romancier, dramaturge et poète.
Il y a une pièce de théâtre qu'on pourrait connaître?
Oh, Jules Renard en tout cas dans son. Oui, Jules Renard.
Oui, articule. On comprend pas ce que tu dis.
Parlait de lui dans son journal. Il disait à son propos qu'il était ingénu et charmant et qu'il avait toujours l'air de débuter. Il n'avait pas l'arrogance du succès, ni même, ça c'est encore plus terrible, ni même de son insuccès.
C'est Maurice Donnet.
Et c'est Maurice Donnet. Excellente réponse. C'est une démonstration. Marcel Pagnol a effectivement succédé à Maurice Donnet. Bravo.
On l'a retrouvé, lui. Ouais.
Polo. Ah
bah, il n'est pas dans la gare des Michards.
Non.
Je crois qu'il n'est pas dans le dictionnaire aussi. Ah. Mais je l'ai croisé sur Internet.
Vous l'avez croisé?
Non. je l'ai croisé sur Internet.
Ah ouais, bah oui. Ouais. Bah, ouais.
Mais sur comment les tu fais pour croiser un auteur sur
Parce qu'il
Internet.
Fait du surf.
Parce que je l'ai mis dans mes listes, je crois.
Une question de vocabulaire pour Karine Humels, qui habite Cergy dans le Val-d'Oise. Comment appelle-t-on ce procès à caractère religieux, cette épreuve parfois douloureuse
dont ordalie.
Comment?
Une ordalie.
Une ordalie, oh. Bonne réponse.
Ah, c'est terrible.
De Paul Elkarat. Pour Nicolas et Larry, qui habitent Rémilly-Alicourt dans les Ardennes, qui va à son travail avec son Saint-Crépin?
Avec son
Saint-Crépin.
Un garagiste?
Non.
Son Saint-Crépin?
Oui, son Saint-Crépin.
Cordonnier?
Comment vous savez ça?
Parce que Saint-Crépin, c'est le Saint-Patron des cordonniers.
Eh ben, oh c'est là un là cordonnier!
Bravo, Paul.
Et le Saint-Crépin, c'est tous les outils et toutes les fournitures
Exactement.
Du cordonnier. Effectivement, un cordonnier se trimballe parfois avec son Saint-Crépin, ses outils, ses ustensiles de cordonnier. C'est l'ensemble des outils d'un cordonnier, le Saint-Crépin. Alors là, bravo. Écoutez, je vais piocher dans les questions les plus difficiles. J'ai pas le choix. Bravo, Polo.
Merci.
Là, j'ai un nom, je peux pas le croire qu'il connaisse. Alors, vraiment, j'ai.
Alors, s'il le connaît pas, nous non plus.
Si je l'ai pas croisé sur Internet, ça devrait aller, alors.
C'est pour Monsieur Landreau qui habite hier. Et ça tombe bien, en cette année olympique, on va évoquer une femme qui était une grande sportive, plus de 20 titres nationaux, tous sports confondus, une cinquantaine de médailles dans des épreuves internationales, nationales, 150 rencontres d'athlétisme et même plus de 200 matchs de football officiel. Elle a été abattue, elle aussi, par la guerre. Elle a été abattue par un groupe de maquisards.
Oui, parce qu'elle était de la milice.
Voilà.
Oui, c'était une grosse.
Alors,
elle était homosexuelle aussi.
Oui, bon, écoutez, on va pas faire tout son portrait. Elle s'habillait en homme, effectivement, une cigarette à la bouche. Oui.
Et Christine and the Queen.
Je la connais.
Et alors, allez-y.
Et il faut juste j'ai son prénom, il faut juste...
La Goulue.
Non. Et elle avait ouvert un magasin d'accessoires automobiles qui s'appelait Spécialité et son nom derrière. Et c'est vrai que cette femme a été abattue par les maquisards.
Ils ont arrêté sa voiture et l'ont abattue.
Artiste de cabaret, espionne, collaborationniste.
J'adore, il n'y a pas un film sur elle, il faut faire un film.
Collaborationniste française. Elle avait été record woman du lancer de disque et du lancer de poids lors des premières Olympiades féminines en 1921 et 1922. Ouais. Elle avait été joueuse de foot, vous vous rendez compte quand même.
Mais comment elle faisait tous les sports?
Parce qu'on jouait déjà au
J'ai prénom, j'ai pas son nom.
Et il y a eu un procès retentissant qui s'appelait le procès du pantalon à la Fédération française sportive féminine, parce que évidemment on voulait l'empêcher de disputer certains sports avec un pantalon. C'est un parcours absolument incroyable. Ouais. C'est vrai que vous avez raison. Il pourrait y avoir un film sur elle. Je me demande d'ailleurs s'il y en a pas eu, mais apparemment non. Apparemment, il n'y a pas eu de film sur cette femme encore, mais ça mériterait parce que c'est quand même un parcours incroyable. Effectivement, ça s'est mal terminé, ce parcours, ça va de soi. Ça s'est terminé abattu par un groupe de maquisards en 1944, et c'est son nom que je vous
répète. J'ai son prénom, c'est ça le problème, j'ai pas son nom.
Et c'est quoi son prénom?
Dis déjà.
Son prénom, c'est Violette.
Bravo.
Violette, oui.
Violette.
Son prénom, c'est Violette.
Elle s'est fait descendue par les maquisards.
Il n'y a pas de stade à son nom, évidemment, on a vu son passé.
Ah bah non, vu son passé.
C'est pas ici à l'instant. À l'instant, je
pas Violette. Si, c'est en Argentine.
Mais Monsieur Ruquier, il y a une autre personnalité connue qui porte le même nom qu'elle.
Oui, un grand dessinateur, créateur.
Plantu, Violette Plantu.
Créateur de
D'un homme qui tire plus vite que son ombre.
Violette Maurice.
Violette Maurice. Oh, bonne réponse. Je l'ai un peu aidé, le gamin.
Oui, merci.
Tu vois, il n'y a pas besoin de l'aider, excuse-nous. Il pourrait venir tout seul s'il voulait faire l'émission. Il ne faut pas non plus l'aider. Il faut le laisser dans la merde.
Il fallait déjà savoir que le dessinateur Maurice avec Goscinny avait créé Lucky Luke, l'homme qui tire plus vite que son ombre.
Alors que nous, on est tous des cons, on a dit Lucky Luke, Violette Luke. C'est Luke Luke.
Non, vous voyez, j'ai pas donné un indice direct.
Violette. J'étais quand même pas loin.
Oh non, mais soyez pas jaloux, Jean-Marie Bigard.
Si, je suis jaloux. Ça me donne des boutons.
Vous allez fêter vos 70 ans, là, dans quelques jours.
Oui, mariage.
Vous faites quelque chose pour votre anniversaire, Jean-Marie?
Rien.
Rien.
Oh. J'attends peut-être que si ma femme va vouloir faire quelque chose.
Oui.
Et je sais pas, je vais m'arranger pour pas être là. J'ai pas envie de voir ça, franchement.
Tu es mélancolique? Tu es nostalgique?
Non, c'est pas ça, c'est la différence de d'âge.
Qui ben oui, elle en a 90, elle.
Non, tiens, j'en ai une sur la différence d'âge. Allez-y. Ça vous intéresse?
Ben, ça m'intéresse, faut voir.
C'est un milliardaire de 60 ans, il rentre dans un bar avec sa magnifique femme de 25 ans. Évidemment, et le barman, à un moment donné, lui chuchote dans l'oreille, mais il lui dit, comment vous avez fait pour épouser une bombe atomique comme votre femme? Et le milliardaire, bah, il dit, j'ai tout simplement menti sur mon âge. Et le barman, il dit, vous lui avez dit combien? 45? Il dit non, je lui ai dit 90.
Évidemment, c'est une bonne raison pour épouser un milliardaire. Mais on va retenir tout de même que c'est Paul Elkarat qui a retrouvé le nom de Violette Maurice. Bravo Paul!
Les grosses têtes reviennent dans un instant sur Bel RTL.
Dans les villes de grande solitude, moi le passant bien protégé par 2000 ans de servitude et quelques clous sur la chaussée. Dans les villes de grande solitude, de nouvel an en nouveau-né, quand j'ai bu plus que d'habitude, me vient la fin d'un carnassier. L'envie d'éclater une banque, de me crucifier le caissier, d'emporter une couleur qui me manque et de disparaître en fumée. Mais dans les villes de grande solitude, tous les héros se sont évolués aux cheminées du crépuscule et leurs torrents se sont calmés. Alors je fonce comme une bête sur le premier sens interdit. Aucun feu rouge ne m'arrête. je me sens bien dans ma folie. J'ai envie de violer des femmes, de les forcer à m'admirer. Envie de boire toutes leurs larmes et de disparaître en fumée. Mais dans les villes de grandes solitudes, quand l'alcool s'est évaporé, je replonge dans la multitude qui défile au pas cadencé. J'ai peur d'avoir brisé les vitres, d'avoir réveillé les voisins, mais je suis rassuré très vite. C'est vrai que je ne casse rien. C'est vrai que je ne casse rien. C'est vrai que je ne casse rien. Dans les villes de grande solitude. Dans les villes de grande solitude. C'est vrai que je ne casse rien. Dans les villes de grande solitude.
Écoutez les grosses têtes
sur Bell RTL.
Une question qui concerne un Allemand. Décidément, on va beaucoup en Allemagne aujourd'hui, mais cette fois, c'est un Allemand, on va dire, du 19e siècle. Johann Martin Schleyer, qu'a inventé ce prêtre et linguiste allemand philanthrope, connu surtout pour avoir créé quoi?
Le Volapük.
Oh là là, oh.
Mais c'est quoi un
Volapük? Les Volapük?
C'est parce que c'est... Le Volapük, comme disait De Gaulle, je suis pas
ta
en train...
Gueule, ta tu... gueule. Tu comprends ça?
Mais c'est quoi du Volapük?
Tu nous exaspères, Paul.
Je suis pas en train de parler l'espéranto, le Volapük, il disait. Le Volapük, c'est une langue internationale, un peu comme l'espéranto, pour que tout le monde puisse s'entendre.
C'était un jouet, et un bouffon.
Il a été créé par ce théologien et prêtre d'origine néerlandaise, d'ailleurs.
Comment tu peux créer une langue?
Eh ben oui, il a créé une langue artificielle.
Ah, c'est comme la langue du feu.
En 1879, un peu comme l'espéranto, effectivement. Sauf que lui, il a inventé le Volapük. Et évidemment, cette langue, le Volapük, a été supplantée par l'espéranto.
T'as la tronche qui tire. Mais c'est quoi ce truc?
C'est bien un prêtre catholique allemand qui a inventé le Volapük. Une humanité, une langue, c'était avant l'espéranto. Bravo encore, Paul Elkarat. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Tu finiras tout seul, Paul.
Une question pour Candice Thomas. Qu'est-ce qu'une curuvale?
Une quoi,
quoi?
Une quoi?
Qu'est-ce qu'une curuvale?
Cherche pas, Paul. Curuvale.
Ah, mais c'est bon.
Arrêtez la cousine du Volapük.
C'est pas un avortement, une technique d'avortement.
Ah non.
Non, une péridurale.
C'est lié à la santé?
Ah non,
santé.
Alors, bah, si vous faites une
comment
cure.
Comment ça s'écrit?
Une cure ovale.
Une cure uvale, pas ovale. Hein.
Ah, une cure uvale. Oui. En deux mots.
En deux mots.
Ah, ok.
C'est des rayons quelque part.
C'est se nettoyer la luette.
Non. Laissez ça, Bigard, monsieur.
Alors,
j'en sais rien.
Bah, uval, c'est.
Uval, c'est les UV, c'est le soleil.
Pas du tout.
Mais non, l'uval, c'est pas ce qu'il y a dans la bouche.
Ah non, pas du
c'est
tout.
Pas c'est pas se nettoyer les intestins.
Si vous connaissez le latin, vous saurez ce qu'est une cure uvale.
Uval,
non.
Ah, mais c'est pas se nettoyer les seins.
Là, vous allez trop sur Internet, mais plus sur les mêmes sites.
Bah non. Est-ce qu'on va mieux après?
Ah oui, oui, il paraît que c'est très bon pour la santé, la cure uvale.
C'est se nettoyer quelque chose, on est d'accord.
Pas se nettoyer spécialement.
Une cure, comme
ça. Vous allez faire une cure thermale, vous ne faites pas nettoyer forcément.
C'est pas lié aux testicules pour
mais toi, tu
mieux féconder.
Non, mais alors arrête avec les testicules. Non, mais c'est du jeûne, n'est pas mangé.
C'est pas du jeûne.
C'est la cure uvale.
C'est le bas du corps ou le haut du corps?
Alors il y a aussi, si vous. En fait, soyons clairs, ce que je suis en train de vous demander. demander, c'est ce que signifie le mot Uval. Vous l'aurez compris.
Oui, ça, on avait compris. On est parce débiles, mais quand même.
Il y a aussi des stations Uval, si vous préférez.
Oh. Hein. Ah, oui. Uval Thorens, oh, Uval Isère.
C'est pas un nudiste, en fait.
Pardon.
Nudiste, non.
Nudiste, non. Non, non.
Est-ce qu'il y en a en France des stations Uval?
Ah oui, oui, oui. Et d'ailleurs, il y en a de plus en plus. Non seulement des stations, mais surtout des cures Uval.
Est-ce qu'il y en a dans le Loir-et-Cher?
Ah, oh, peut-être.
Mais j'ai. C'est pas ce que fait Rachel en ce moment, notre extraordinaire, la personne qui nous confesse après. Vous savez, elle met ses cuisses et au milieu de la cuisse, il y a comme une sorte de...
Je ne veux pas savoir.
Mais si, c'est dans ta story.
Je ne veux pas savoir ce qui se passe après cette émission.
Attends, il y a une barre et on se masse l'entrejambe. Vraiment, je vous assure, on se masse la cuisse et c'est une sorte de piquet. Et je vous assure, et ça fait mal. Rachel, elle a dit que ça faisait mal dans sa story.
Ah, en fait, est-ce que c'est quelque chose qui a à voir avec les sexes? Non.
Pas du tout, mais pas du tout.
Mais c'est physique, on est d'accord. C'est physique.
C'est quoi? C'est le cul?
Ça te procure. Non.
Mais tu sais pas
ça
la réponse.
Ça te procure un bien-être physique.
Mais est-ce qu'on dort? On dort. Est-ce pour dormir?
Ah non, c'est pas pour dormir.
Et monsieur, il y a des centres en France de...
Il y a d'ailleurs aussi, pardon, je vais être obligé d'aller jusque-là parce que je vois bien que pour l'instant.
Oh, j'ai une idée! Eh ben, c'est des, vous savez, des stages, des cures où on essaye de faire de la survie dans la nature.
Pas du tout.
Pas du tout.
On vous lâche pour savoir ce que vous savez manger. Vous
J'allais
vivez.
Donc vous dire qu'il existe, par exemple, des hémorroïdes Uval. Mais cette fois-là, c'est avec deux L, parce que, oui, c'est pas comme la cure Uval, vous voyez.
Bah ça va vachement nous aider.
Non, mais alors, c'est une cure qui a à voir avec le fait de se nettoyer.
Pas du tout, je vous dis. Non.
Est-ce que c'est un bien-être physique?
Forcément, quand vous faites une cure, un bien-être physique, voyez-vous. C'est le but.
Un bien-être physique qui se situerait autour du trou de balle, quoi.
Non, mais pas du tout.
Imaginons, j'y vais demain. Est-ce que quelqu'un me touche ou c'est vraiment, il y a un appareil?
Non, écoutez, je veux pas de
bêtises. Ah, c'est pas un truc avec un aliment, avec un fruit?
Non, qu'est-ce que vous dites?
Non, attendez.
Avec les arbres.
C'est pas...
300 euros dans 30
les
secondes.
Les vendanges.
Pardon?
Les vendanges.
Quoi, les vendanges?
Bah, avec leurs pieds, là, ils sont en train de faire du jus de raisin. Ouais.
Oui, et alors?
Mais bah ça, c'est pas ça le truc Uval?
On se rapproche, là.
Putain, je suis chaude. Enfin... Non, mais en gros, c'est...
Donc taper des pieds sur quelque chose...
C'est pas pour se détendre.
Vous êtes tout prêt, en même temps, ça n'a rien à voir avec le fait d'écraser le raisin. Mais donc, c'est quoi une cure Uval?
C'est d'aller se sentir mieux en piétinant des raisins.
Mais non!
Tout simplement aller faire des vendanges.
Non plus!
C'est avec un fruit?
Mais vous avez dit que j'avais bon.
Ben tout près, vous étiez tout
c'est
près.
C'est un piétinant, quelque chose qui.
Mais avec quoi elle était tout avec près.
Manger des raisins.
Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire Uval?
C'est là, ça ma c'est question. Ce qu'on sait pas justement.
Uval, alors ça veut dire que c'est saoulé.
Non,
Uval,
le vin,
c'est un rapport avec d'une pomme.
Mais non, c'est la cuve.
C'est
là.
Végétal.
C'est quand on ne mange qu'un seul aliment. Par exemple, on mange pendant 15 jours que du raisin.
Taisez-vous.
C'est l'orthorexie. Orthorexie.
Non, j'ai accordé la bonne réponse, même si Mel Rabedia ne l'a pas tout à fait donnée. Mais elle vous a mis sur la piste et maintenant on est en train de tourner autour comme
Merci
des mouches
Laurent.
Autour d'un cadavre. Vous voyez, Uval, ça veut dire lié au raisin, qui se rapporte au raisin. Une cure Uval. C'est tout simplement des soins qu'on vous fait à base de raisins.
Y en a un Cheverny.
Il y a des stations Caudalie, par exemple,
voilà. Oui,
un peu partout en France, qui se font à base de raisins, grains de raisins.
Laurent, pas un peu partout, c'est chez moi, Caudalie. Enfin, pas chez moi, mais juste à côté, à Cheverny. C'est là où il y a des vignes.
Pas forcément, le raisin, ça s'exporte. Hein.
Avec les pépins, qu'est-ce qu'on fait?
Avec le pépin, on se protège de la pluie.
C'est vrai que ça a rapport avec le raisin. Donc vous le dites.
Non, écoutez, qu'est-ce que je vous dis, moi?
On voit toujours pas le rapport avec les hémorroïdes, en tout cas.
Eh ben si, les hémorroïdes Uval, elles sont en grappe comme le raisin, voyez-vous.
J'en ai jamais eu des hémorroïdes.
Ah bon, écoute, franchement.
Mais qu'est-ce que c'est?
Pourtant, t'as une tête à avoir des hémorroïdes.
Peut-être parce que personne n'est allé voir.
Les grosses têtes reviennent dans un instant sur Bel RTL.
Sur cette terre, c'est prévu. Ma chanson est détruite. pour un amour toujours plus grand et qui font de leur vie en plein d'actes un soleil levant. Tu lui as demandé sa main sans oublier votre refrain. Vous avez dansé tous les deux, le cœur ouvert à l'inconnu sur toutes les avenues. Tu lui as demandé sa main et tu le referais demain. Une paire d'écouteurs pour deux, vous partirez vers l'inconnu. Sur cette terre c'est prévu. Ma chanson c'est surtout la leur. Ils m'ont inspiré ces mots qui viennent du cœur quand ils dansaient aux premières lueurs des soleils levant. Cette façon d'épouser la vie, de penser qu'on n'en a qu'une et qu'un aussi, c'est sûrement un des plus grands bonheurs quand on a 100 ans. Tout doucement, elle te réveille pour te faire part de la nouvelle. Vous ne serez bientôt plus deux, un écouteur au bas son cœur. Il portera le nom du chanteur. Jour après jour, le même refrain, tour après tour, le même amour. C'est possible sans se lasser, je le veux. Sans oublier votre refrain, vous avez dansé tous les deux, le cœur ouvert à l'inconnu, sur toutes les avenues. Tu lui as demandé sa main, et tu le referais demain. Une paire d'écouteurs chacun, vous partirez vers l'inconnu, sur l'air d'un amour sans fin.
Écoutez les grosses têtes
sur Bel RTL.
Les grosses têtes reviennent dans un instant sur Bel RTL.
Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound, the nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen buster, you better start to move your feet to the rockin'est rock steady beat of madness. One step beyond.
Écoutez les grosses têtes
sur Bel RTL.
RTL, le livre du jour.
Le livre du jour va vous emmener au Havre. Ah. Je ne vais pas vous faire visiter ma ville natale, mais vous parlez, en tant qu'artiste que vous êtes tous, évidemment vous y serez sensibles, vous parlez d'une bande dessinée, qui parle du retour d'une grande salle mythique dans la ville du Havre. Et ces salles de spectacle, c'est qu'en province parfois, elles ont longtemps fermé ou disparu, et on parle de la réouverture d'une salle de spectacle, salle de cinéma aussi à une époque, qui s'appelait le Normandie, qui s'appelle toujours le Normandie, parce que ça y est, après des années, le Normandie revit, même si la salle de spectacle, elle, n'est pas encore ouverte. Le Grand Hall l'est, et tout ça est raconté dans une BD signée Mathieu Tellet, Jessie Spahija et de nombreux dessinateurs. Pourquoi de nombreux dessinateurs? Je vais vous expliquer dans un instant, mais d'abord, je tiens à remercier l'auteur de ce livre qui rappelle qu'effectivement, dans cette salle, le Normandie, dans les années 80, j'ai animé une soirée, pendant une soirée, mon émission de radio depuis cette salle du Normandie au Havre. Mais comment s'appelait cette émission?
Les grandes têtes?
Pas les grandes têtes.
Les petites têtes.
Pas les petites têtes.
Les moyennes têtes.
Pas les moyennes têtes.
Les médioles.
Les saintes têtes. Les jolies têtes.
Pas les jolies têtes.
Têtes, c'est bon.
Pardon.
Les bonnes têtes.
Les bonnes têtes. Les bonnes têtes. Bonne réponse de Johan Rioux. Eh oui. Merci d'avoir évoqué cette soirée, parce que c'était seulement le temps de vraiment d'une représentation, d'une émission que j'ai animée, les Bonnes Têtes au Havre. Bonjour, bonjour, monsieur Spahija.
Bonjour, monsieur Riquet.
Et c'est vrai que c'était dans les années 80, voilà, mes tout débuts radiophoniques. Et c'était monsieur Rouelland qui, à l'époque, était le directeur de cette salle du Havre. Pourquoi vous avez fait une BD sur la réouverture de cette salle de spectacle?
C'est parti de, comment dire, ça fait un peu plus de trois ans maintenant que je travaille à la rénovation de la salle, et ça m'avait permis de découvrir beaucoup d'anecdotes sur sur les 90 ans d'histoire du Normandie. Et comme j'avais précédemment travaillé plusieurs années dans la bande dessinée, je voulais raconter de manière un peu ludique, au travers d'une fiction, cette histoire, notamment à mes enfants. Et j'ai recroisé un ami, Mathieu Tellet, et qui m'a dit qu'il m'aiderait à le faire, parce que j'avais du mal à mettre de l'ordre dans mes idées. Et finalement, on est parti sur une fiction qui retrace historiquement, de manière très fidèle, l'histoire du lieu et l'histoire des alentours aussi
du Normandie.
Et même du Havre en général, voilà, des alentours du Normandie et du Havre en général.
Il faut expliquer que ça a été une salle mythique. Moi, je me souviens que quand j'étais gamin, évidemment, je voyais les artistes dans le journal local affichés, passer au Normandie, et Barbara qui passait au Normandie, et plein d'autres artistes ainsi. Et on rêvait évidemment d'aller au Normandie. Ça a été un cinéma aussi. Et cette salle, vous l'avez rachetée ou vous en avez hérité?
Non, mes parents l'avaient achetée en 99. Mon père rêvait de pouvoir la rénover. Et malheureusement, il a pas pu, il est tombé malade et il nous a quittés en 2020. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de reprendre là où lui il s'était arrêté.
Et voilà pourquoi c'est une histoire incroyable que vous racontez à travers cette BD. Et s'il y a de nombreux dessinateurs qui ont prêté main forte à cet ouvrage, c'est parce qu'en fait, il y a différentes époques. Les différentes époques du Normandie, et on vit l'histoire de cette salle de spectacle, par exemple, à travers l'occupation et les bombardements du Havre.
On a voulu, comment dire, matérialiser les différentes dates clés. On est confiant chacune à un illustrateur différent. On a beaucoup d'illustrateurs du Havre ou de Normandie, et d'autres illustrateurs avec qui nous étions amis, Mathieu ou moi, et qui ont accepté de nous accompagner sur cette aventure. Et l'idée, c'était de pouvoir bien, comme ça, bien dissocier les sauts dans le temps et
un dessinateur par époque, en quelque sorte.
Exactement.
Et c'est vrai que grâce à un ticket magique, voilà, vous voyagez à travers l'histoire de cette salle de spectacle au Havre, mais ça pourrait être une autre salle de spectacle ailleurs, parce que c'est ça, évidemment, qui est émouvant aussi, c'est de faire revivre un lieu magique. Et quand est-ce que vous allez vraiment avoir terminé les travaux de cette salle de spectacle? Puisque pour l'instant, j'ai bien compris, la salle n'est pas encore ouverte.
Oui, alors là, on a réouvert au public pour la première fois après 33 ans le hall. Donc on arrive à faire une petite programmation dans le hall. On est en train de terminer la première partie du bâtiment, le sous-sol, le hall, les loges d'artistes, et on a commencé hier le gradinage du balcon. Il nous reste la grande salle, et pour ça, bah, j'attends de trouver les fonds nécessaires.
Et cette BD
vous manque combien?
Et cette BD devrait vous y aider, j'imagine.
Oui, bah, la BD, l'idée, c'est de faire encore un petit peu plus connaître le projet. Et l'intégralité des fonds va à la rénovation.
Mais il y a un maire au Havre qui pourrait vous aider quand même, Édouard Philippe.
Bah, il m'a remis une médaille déjà.
Non, mais une médaille, ça suffit pas. Est-ce que quand même la mairie du Havre va mettre un peu d'argent là-dedans?
J'espère qu'au bout d'un moment, ils vont nous aider.
Les grosses têtes, on vient faire. J'ai fait les bonnes têtes dans les années 80.
Pourquoi pas ?
On vient faire les grosses têtes au Normandie dès que ça ouvre. Mais pour ça, il faut que le maire du Havre bouge un peu quand même.
Je vais aller insister un petit peu plus alors.
Ah bah oui, quand même. Oui, écoutez, vous venez de ma part. Hein. Vous venez de ma part, vous... Non, franchement...
Ça fera combien de places, monsieur ? Ça fera combien ? 2000 places, 3000 places ?
Non, c'est une plus petite salle. Là, on est à 700 places assises environ.
Ah ouais, on se déplace pas à moins de 7000, nous, alors. 700 places prévues, mais c'est déjà une belle salle
c'est
de spectacle.
C'est bien, ça, pour nous.
Écoutez, Retour au Normandie, c'est une bande dessinée qui ira, j'imagine, au profit des travaux de cette salle qu'on espère voir définitivement rouverte. Pour l'instant, vous l'avez dit, c'est uniquement le hall. C'est une BD publiée chez quel éditeur ?
Édifice Édition, c'est une éditrice havraise qui nous a aidés aussi.
Tout est made in Le Havre, même moi. Merci en tout cas, monsieur Jessy Spahija. C'était notre livre du jour.
Les grosses têtes reviennent dans un instant sur Bel RTL.
J'ai vu la mer au creux des vagues, ça n'allait pas.
Ça n'allait pas.
Le cœur serré, couler les larmes, ça n'allait pas.
Ça n'allait pas.
J'ai fait la guerre aux vagues à l'âme, sous l'eau, saoulé d'être comme ça. J'ai vu la terre tourner sans moi, ça n'allait pas. Tu m'as dit pas se changer d'air et ça ira.
Et ça ira.
Fais de la place à la lumière et ça ira.
Et ça ira.
Tu m'as dit toi qui m'as connu, rire aux éclatants que j'ai pu. Ce que j'attendais d'une amie, oh tu m'as dit. La vie c'est maintenant, on n'a pas de temps. Pas de regrets. Fais rage dans tes yeux, sois sûr de ça.
Sois sûr de ça.
Autant de courage pour deux, sois sûr de ça.
Sois sûr de ça.
Et si l'hiver est de passage, c'est pour mieux tendre les bras. Se rassurer quand c'est trop dur, sois sûr de ça. La vie c'est maintenant, on n'a pas le temps. Pas de regrets ni de rancœur, la tête ailleurs, la tête ailleurs. La vie c'est maintenant, on voit les choses en grand. On dégomme la douleur, mais si tu cœur, mais si tu cœur. La vie c'est maintenant. La vie c'est maintenant. On n'a pas le temps. La vie c'est maintenant. Et quand ça va, dis-le-moi. Dis-le-moi, c'est aussi ça, hausse la voix, hausse la voix. Ou si ça va, moi ça me va, moi ça me va. C'est aussi ça, un ami pour moi. La vie c'est maintenant, on n'a pas le temps. Pas de regrets ni de rancœur, la tête ailleurs, la tête ailleurs. La vie c'est maintenant, on voit les choses en grand. On dégomme la douleur, mais si tu cœur, mais si tu cœur. La vie c'est maintenant. La vie c'est maintenant. On n'a pas le temps. La vie c'est maintenant. La vie c'est maintenant.
Vous écoutez les grosses têtes
sur Bel RTL.
Une question pour Stéphanie Riorge qui habite Metz en Moselle. Henriette Ragon a pendant longtemps travaillé à la Tour Eiffel. Mais qu'est-ce qu'elle faisait, Henriette Ragon, à la Tour Eiffel?
Elle chantait, c'était Patachou.
C'est le vrai nom de Patachou, bravo!
Incroyable, elle chantait au resto?
Oui.
Elle chantait au restaurant de la Tour Eiffel. Oui. Elle a commencé évidemment à Montmartre. Chez Patachou, c'était à Montmartre. Mais elle a tenu aussi, c'était un piège évidemment pour vous, elle a tenu et animé le restaurant de la Tour Eiffel, Patachou, dont le vrai nom était Henriette Ragon. Mais c'est vrai que son nom colle plus à Montmartre qu'à la Tour Eiffel et à la butte, célèbre butte qu'elle a chantée.
La butte sont dures aux miséreux, les ailes des moulins protègent les amoureux.
Patachou qui est parti il y a 4 ans, le 30 avril, un peu plus de 4 ans d'ailleurs.
Non, 2015.
En 2015, donc ça fait 9 ans, vous voyez, ils ne savent pas calculer dans Wikipédia.
97 ans.
À Neuilly-sur-Seine, elle est partie effectivement le 30 avril, à 96 ans parce qu'elle n'a pas fêté ses 97 ans.
C'est ça qui est chiant, c'est qu'on ne sait pas exactement.
Ah bah oui, c'est ça qui est chiant.
Tu dois pas endormir. Et elle a un fils extraordinaire avec Pierre Billon, et à qui j'ai fait, pour Mask Singer, j'ai enregistré des disques avec Pierre Billon. Et oui, il y avait Pierre Billon.
Vous avez enregistré des disques. Non, on n'avait pas enregistré. Répété vos prestations dans la bestiole dans laquelle vous étiez et où tout le monde nous a reconnus dès le premier jour.
Et donc il m'a donné des conseils et tout.
Mais c'est vrai que Pierre Billon travaille sur Mask Singer. C'est lui, le fils de Patachou, qui fait répéter les artistes pour qu'ils puissent ensuite assurer leurs prestations dans leurs costumes. Pour Robert Tourneux, qui habite Sucy-en-Brie, encore une commune qui pourrait peut-être être invitée en juillet prochain à Vatan. Et je vais vous demander, dans quel pays trouve-t-on comme monnaie le kip, K-I-P ?
Le Laos.
Le Laos. Oh, ouais. Oh là là là. Incroyable. Bonne réponse. Encore une bonne réponse de Monsieur Paul Elkarat.
C'est moi.
C'est vrai qu'on a un peu de mal à briller quand il est là, donc.
Pour Christine Abarre, qui habite Villeneuve-sur-Yonne, pouvez-vous me dire comment on appelait l'officier chargé de servir à boire au roi ou à un prince?
Un échanson.
Oh, là là,
oh non.
Là. C'est un échanson. Bon, bravo.
Fantastique, Paul.
Tu peux juste dire avant, personne n'a la réponse, hein, au lieu de la balancer tout de suite.
Hein, je demanderai.
Non, écoutez, on vous a laissé raconter votre histoire, monsieur.
Elle a duré 5 siècles.
Chacun, voyez, chacun sa spécialité.
Monsieur.
Pour Roland Pantour, monsieur Pantour habite Comines, dans le Nord. Pouvez-vous me donner le nom de cette personnalité que Napoléon fit chevalier de la Légion d'honneur? Personnalité à qui on doit la physiologie du goût.
C'est
Bria Savarin.
Bria Savarin, bonne réponse de Dari Boutboul.
Oui, tu l'as bien niqué, Dari. Bien.
J'ai jamais vu quelqu'un faire autant pitié.
Vous vous rendez compte, Bat Paul, qu'est-ce que je suis content.
C'est un nom composé, j'arrivais plus à le remettre dans le
bonheur. Oui, mais c'est le fromage.
Savarin Briage.
Tu nous as vengé, Dari.
Ah, merci.
Ça, j'avoue que là, sur la dernière ligne droite, on reconnaît.
Au poteau, là, les 50 derniers mètres.
On reconnaît la fille du tiercé, là. Enfin, vraiment, la paf, d'une tête. Alors, pour Brahim Salah, qui habite Paris 14e, pouvez-vous me dire à quoi sert un anti-bois?
Ça s'écrit B-O-I-S, anti et bois.
Ça s'écrit comme ça se prononce, anti-bois.
C'est pas pour la voiture.
C'est pas un habitant d'Antibes, alors.
Ah, ce n'est pas un habitant d'Antibes, non. Mais ça s'écrit A-N-T-I-B-O-I-S.
C'est pour éviter que les alcooliques boivent?
Non, un anti-bois, vous en avez peut-être chez vous des anti-bois.
Est-ce que le bois d'anti-bois veut dire l'arbre, la matière, le bois?
Oui, c'est vrai que c'est souvent en bois, l'anti-bois.
C'est pour taper quelque chose?
Pour taper quelque chose.
Ouais, non, comme en général, anti, c'est pour contre quelque chose?
Ce serait plutôt l'inverse, hein. J'ai envie de dire.
C'est pour la cheminée?
Pour la cheminée, non.
Est-ce pour quelle pièce d'une maison, pardon? Alors, c'est pas forcément dedans, c'est peut-être dehors?
Non, c'est à l'intérieur qu'on trouve des antibois, car généralement, il y en a plusieurs, des antibois à la maison, et vous en avez sûrement chez vous, sans savoir que cela
s'appelle... C'est pour éviter de prendre feu?
Pour éviter de prendre feu,
c'est les petites roulettes sous les meubles?
Ah, ça, c'est pas bête, on se rapproche.
Je sais, c'est les petits coussinets qu'on met pour pas abîmer le sol. Non. Chez IKEA, c'est 3,90.
C'est les petits chaussons que l'on met pour...
Presque, mais c'est en bois. Alors, il ne s'agit pas de ne pas abîmer le sol.
C'est pour les portes.
C'est-à-dire?
Vous savez, les petits cale-portes.
Non, mais vous êtes tout prêt, vous brûlez.
C'est pour les meubles?
Oui, c'est-à-dire?
Donc, c'est pour rehausser les meubles?
Non.
Alors, ça se met pas sous un meuble.
Donc, ça ne se met pas sous un meuble.
Ça se met sur un meuble.
Non plus.
Et ben, ça se met dans le meuble.
Non plus.
Ça se met à côté du meuble.
Oui, alors.
Oui, c'est pour éviter que le meuble tape dans le mur.
C'est pour éviter que le meuble tape dans le mur. C'est la baguette de bois qui se trouve le long du mur pour que les meubles ne frottent pas sur le mur.
Merci.
Bravo, Jean-Marie Bigard.
Pardon ?
Vous n'étiez, vous n'étiez...
J'aurais pas trouvé si j'avais pas fait tout le taf, quoi.
Oui, mais vous n'étiez pas loin, vous voyez. Je vous l'accorde, mais là, mais vous ne m'avez pas donné la réponse.
Mais c'est comme s'il me dit, dépose-moi au Péra, je le dépose à Saint-Lazare. Je lui ai fait tout le chemin, non? Et à un moment donné.
Et mais là, il te l'accorde pas.